France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet.
Diane Curis, réalisatrice.
Bonjour Diane Curis.
Bonjour.
Bon, vous avez dit réalisatrice, mais vous pouviez ajouter scénariste et productrice, on verra ça au cours de ces 5 entretiens. Vos films, j'en ai compté 15 à ce jour, nous accompagnent depuis près de 50 ans. Le dernier date de 2025, il s'intitule « Moi qui t'aimais ». Il porte sur le couple que formaient Yves Montand et Simone Signoret. De fait, le couple, l'amour, le désamour, la famille, l'enfance, c'est un peu vos sujets de prédilection. C'est des sujets autour desquels vous tournez de film en film, notamment ceux que vous qualifiez d'autobiographiques, comme « Coup de foudre »,« La boule les pins »,« Pour une femme ». Et le premier d'entre eux, celui qui vous a propulsé comme cinéaste et qui vous a fait connaître du grand public, « Diabolomante ». Mais c'est aussi vrai d'un homme amoureux, qui date de 1987, d'Après l'amour, ou encore des enfants du siècle sur la relation entre George Sand et Alfred de Musset. Et on a presque envie de dire que cette veine autobiographique, assumée, ajoutée à votre féminité, doublée ou triplée donc, d'un vrai sens de la liberté et d'une quête revendiquée d'émancipation, tout ça fait de vous une pionnière dans le monde du cinéma, puisque vous avez commencé dès la fin des années 1970. Est-ce que vous diriez, pour commencer, qu'au fond, vous n'avez fait que raconter votre vie ?
J'ai raconté ma vie, j'ai raconté la vie de mes parents, j'ai raconté la vie de personnages illustres, donc je me suis glissée à l'intérieur de ces vies-là, la mienne et celle de ma famille et celle des personnages illustres dont je parle. Oui, finalement, c'est une sorte d'autobiographie permanente, à commencer par le premier qui était Diabolomante, où je racontais mes années d'adolescence. Mais j'aime bien l'idée de pionnière. Ça me touche beaucoup que vous disiez ça. Parce qu'en effet, je me suis jamais rendu compte qu'on n'était pas très nombreuses à l'époque. Je n'y pensais pas. Je suis une femme, donc je suis féministe. Forcément, je peux pas être le contraire. Mais j'ai toujours essayé d'évacuer cette idée de « Ah, vous êtes une femme cinéaste ». Et en réalité, je m'aperçois qu'en effet, on était très peu nombreuses. Et j'ai été, en quelque sorte, oui, avec quelques-unes, mais très peu de femmes, une sorte de pionnière.
Pionnière, cinéaste, femme. Est-ce que cinéaste du souvenir que j'ai pu lire ici ou là vous convient également ?
Oui. Je suis pas nostalgique, mais je suis beaucoup intéressée par ce qui s'est passé, par l'histoire, par la petite histoire dans la grande histoire. J'ai d'abord été intéressée par mon enfance, évidemment, puis par mon adolescence. Je dis souvent que, et je crois que c'est vrai, que j'ai vécu, alors je sais plus maintenant si je continue, mais j'ai vécu la plupart des moments de mon enfance et de mon adolescence et de mes jeunes années en essayant de me souvenir pour raconter. J'avais vraiment déjà, je crois, quand j'étais sur les bancs de l'école, du lycée, à 12, 13 ans, j'avais déjà la sensation, l'impression de ne vivre les choses qu'à travers l'idée de les raconter un jour. Et je savais pas comment je les raconterais, parce que c'était pas du tout précis dans ma tête. Je voulais pas être écrivain, je voulais pas être cinéaste, je savais pas ce que je voulais être. Mais j'avais vraiment le sentiment que tout ce que je vivais, les injustices, comme les beaux moments, il m'arrivait pour les restituer. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime citer de temps en temps qui dit « Les histoires arrivent à ceux qui savent les raconter ».
C'est au moins dans deux films, hein, cette phrase.
C'est vrai, je la cite souvent, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle est absurde, évidemment. Les histoires arrivent à tout le monde. Mais j'aime bien l'idée qu'on emmagasine des souvenirs, on vit des choses et parfois, elles sont emmagasinées pour être restituées.
Est-ce que vous prenez des photos ? Est-ce que vous preniez, quand vous étiez enfant, des photos ? Parce qu'on regarde beaucoup de photos dans vos films. Évidemment, je pense en particulier au générique de Pour une femme, où défilent des photos. Et alors, vous mélangez en plus photos réelles et photos de vos fictions, de vos films. Mais est-ce que dans cette idée d'emmagasiner, de se souvenir pour raconter un jour, eh bien, enfant, vous aviez un appareil photo ?
Non. Bien sûr que non.
Pourquoi bien sûr que non ?
Parce qu'on n'avait pas d'appareil photo à mon époque. Moi, je suis de cette génération-là. L'appareil photo est venu un peu plus tard. Il y avait des gens qui filmaient déjà avec des petites caméras à l'ancienne. Non, j'avais pas. On avait des petites photos. D'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire le premier film de toute mon histoire, c'est Diabolomante, j'ai fouillé, bien sûr, dans les valises de souvenirs et j'ai retrouvé des photos. C'était des photos de toute petite taille, vous savez, dentelées. noir et blanc, bien sûr, et on voit rien, il faut les regarder à la loupe. Alors, j'ai gardé toutes les photos de famille. Oui, j'ai gardé les photos de ma mère, les photos de ma sœur, j'ai gardé tout. Je suis un trésor ambulant. Mais les photos sont importantes, en effet, parce qu'elles sont évidemment la trace, la mémoire. Et c'est vrai que souvent, une histoire revient en regardant une photo. On se rappelle d'un personnage, on se souvient d'un... Mais c'était des photos de vacances, souvent des photos sur la plage, dans un pré, dans un champ. J'ai des photos de mon père allongé devant sa voiture, sa frégate noire... Bon, les photos sont très inspirantes, évidemment, quand on travaille sur la mémoire et sur le souvenir, oui, bien sûr.
À quel moment, Diane Curis, vous avez appris, vous avez eu connaissance de votre histoire familiale, de l'histoire de vos parents qu'on va raconter, bien sûr, parce qu'en plus, c'est une histoire vraiment formidablement romanesque. On comprend que vous ayez eu envie de la raconter dans des films. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez entendu parler de cette histoire ?
Très tôt, je ne pourrais pas dater vraiment le moment où j'ai compris l'histoire de mes parents. En fait, je l'ai comprise petit à petit, au fur et à mesure, justement, des films que j'écrivais sur eux. Mes histoires d'enfance, c'était les histoires qu'on me racontait pour m'endormir le soir. C'était les histoires dans lesquelles mes parents étaient les héros de ces aventures incroyables. Comment ils avaient échappé pendant la guerre aux Allemands, à la police française,
etc. Parce que vous êtes née en 1948.
Oui, je suis née juste après la guerre. Et donc, mes parents sortaient de ça. Ils ont été naturalisés français assez vite. Ils étaient russes tous les deux. Ma mère était née en Russie, mon père en Russie aussi. Elle était moitié polonaise.
En l'occurrence, c'était l'Union soviétique.
C'est ça. Et elle était moitié polonaise, moitié russe. Et ils se sont rencontrés dans un camp d'internement en France pendant la guerre en 1942. Et ils se sont mariés à cette époque-là. Et en fait, mon père a sauvé ma mère d'une mort certaine parce qu'elle devait être dans un convoi imminent qui partait pour l'Allemagne. Et comme il avait été légionnaire, son commandant de la Légion l'a reconnu dans ce camp. Il était là par un hasard invraisemblable. Et il lui a dit « Mais toi, qu'est-ce que tu fais là, Curis ?» Et Curis lui a dit, mon père, Michel, lui a dit « Mais moi, je suis juif, j'ai été arrêté parce que je suis allé me faire recenser, comme c'était la loi en 1942. » Et le commandant lui a dit « Mais non, non, je vais te faire sortir de là. » Et à ce moment-là, mon père a dit, mais dans un espèce de réflexe absurde, fou, il lui a dit « Mais est-ce que je peux faire sortir ma fiancée en même temps que moi ?» Et le commandant lui a dit « Bah oui, oui, mais si vous êtes mariés. » Il n'avait ni fiancée, ni... Il avait repéré peut-être ma mère dans le camp. Il avait peut-être vu cette femme, elle était assez belle. Et donc, il est allé la voir et il lui a dit « Est-ce que je peux vous faire sortir, mademoiselle, mais il faut qu'on se marie. » Et elle est... Alors elle racontait, ça c'était les histoires de mon enfance, qu'elle avait hésité toute la nuit, qu'elle s'était demandé ce qu'elle allait faire, et puis que finalement elle avait accepté. Donc c'était un mariage blanc, ils se sont mariés au camp.
C'était le camp de Rivesaltes.
Le camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées
orientales. En fait, en 1942, ce camp, c'était un camp, ça avait été un camp d'internement géré par l'État français, et étaient enfermés là des étrangers qui étaient considérés comme indésirables ou suspects, et puis c'est devenu un camp de transit. C'était un camp avant la déportation vers Drancy ou vers Auschwitz.
Bien
donc,
sûr.
Il l'a sauvé de la mort, et
bien
lui-même
sûr.
A été sauvé de la mort.
Et donc, ils se sont mariés, et ça, c'est cette scène-là que j'ai reconstituée dans Coup de foudre, qui m'a, évidemment que ça frappe un enfant, de penser que ses parents se sont rencontrés au bord de la mort, au bord du précipice. Et donc, c'était très inspirant. Et les histoires qu'on me racontait, donc mes histoires d'enfance, c'était pas les histoires de Tintin et Milou ou des histoires de pirates. C'était des histoires de tes parents ont échappé aux Allemands. Voilà, ça, c'était mon roman d'enfance.
Qui vous racontait ces histoires ?
Ma mère, mon père, mais surtout ma mère.
Elle vous racontait plusieurs fois cette histoire, oui, de façon différente.
C'est une histoire que j'ai entendue souvent, beaucoup. En tout cas, j'ai grandi sur cette légende-là de mes parents héroïques et mon père surtout, ce héros qui avait sauvé ma mère, quoi.
Vous dites qu'il était légionnaire.
Oui,
votre père.
Il s'était engagé dans la Légion au début de la guerre. C'est-à-dire, en fait, il est venu de Pologne. Il était né en Russie et à 5 ans, ses parents l'ont envoyé chez une tante en Pologne qui n'avait pas d'enfant. Donc, il a été élevé par cette femme. Et puis, quand il a eu 15 ans à Varsovie, il a commencé à être militant communiste. Et à l'époque, Varsovie n'était pas du tout communiste. Donc, il s'est fait arrêter, il s'est sauvé. Il a réussi à arriver en France. Il a commencé à travailler à Paris. Et puis, la guerre a éclaté. 1939, il s'engage dans la Légion étrangère. Et il part au Maroc, en Algérie, et il est dans la Légion étrangère. Et en 1940, quand la guerre est perdue, il y a une démobilisation de tous les légionnaires. On les amène à Marseille. Ils parlent français moyennement. Il a un accent. Et il cherche un travail quelque part. Et il se fait engager à Brive-la-Gaillarde chez un paysan. Voilà. Et puis c'est là que Abribe-Lagaillard, en 1942, il va se faire recenser à la mairie en disant « mais moi je suis juif ». Et quand je lui demandais plus tard « mais pourquoi tu as fait, pourquoi tu as été te faire recenser ?» C'était fou. Tu sais. Alors, il avait trois explications. Il disait d'abord, on ne savait pas ce qui allait se passer. On était loin d'imaginer ce qui pouvait arriver aux juifs à l'époque. Deuxièmement, une sorte de fierté. « J'ai pas honte, je suis juif, ben, je vais aller le dire ». Et puis troisièmement, c'était la loi. Donc on respecte la loi. Donc ces trois raisons ont fait qu'il est allé au commissariat, à la gendarmerie, et que là, on est venu l'arrêter, et on l'a envoyé à Rivesaltes.
Donc pour une femme qui fait une sorte de synthèse de cette histoire, Diane Curis, il est dit que les parents de votre père sont morts en déportation.
Bah, les parents de mon père sont certainement morts. Il est né en Ukraine, il est né pas loin de Tchernobyl, dans un endroit qui s'appelle Vladimir Volinsk. Et il est, bah, la famille a disparu, c'est-à-dire qu'il a quitté sa famille pour aller en Pologne, puis en France, puis il n'a plus jamais eu de nouvelles du reste de la famille. En revanche, il a retrouvé son frère, son jeune frère, qui un beau jour a débarqué à Lyon, quand lui était déjà installé avec un petit magasin de confection pour hommes. Et là, on est dans les années 49-50.
Et c'est aussi ce que vous racontez dans Pour une femme. Restons un instant sur vos parents encore, du côté de votre mère. Votre mère vient d'Anvers, enfin elle a quitté donc aussi la Pologne.
Alors ma mère, elle a une autre... C'est pas 49-50 mon oncle, c'est 46, c'est avant ma naissance.
C'est 47 même.
C'est 47 même, exactement.
Juste avant votre naissance.
Juste avant ma naissance, voilà.
C'est pas anodin comme
j'en ai fait un film. Ma mère, elle est née à Rostov-sur-le-Don, là où il y a la guerre en ce moment. Sa mère, à elle, était polonaise et a été engagée par un homme qui était veuf et qui avait besoin d'une gouvernante pour ses enfants. Il avait deux enfants. C'est une histoire très romanesque aussi. Donc, ma grand-mère, qui s'appelait Nadia, donc la mère de ma mère, se retrouve à Rostov-sur-le-Don, engagée par ce veuf qui est commerçant dans la soie, je crois. Et elle tombe amoureuse de lui et lui aussi, et ils se marient. Elle l'épouse. Il s'appelle Winter. Ma mère s'appelle Lena Winter. Et ils ont une petite fille, qui est ma mère. Et puis, le père de ma mère, ce monsieur de Rostov-sur-le-Don, meurt du typhus quand ma mère a 5 ans. Et donc, sa mère est chassée par la famille, c'est-à-dire elle est obligée d'abandonner les deux enfants qu'elle a élevés, les deux enfants de ce monsieur, de mon grand-père, que je n'ai donc jamais connu, et elle prend sa fille sous le bras et elle retourne dans sa famille. Mais à ce moment-là, sa famille n'est plus en Pologne, sa famille a quitté la Pologne à cause des pogroms et est partie à Anvers. Elle est veuve, elle rejoint avec sa petite fille de 5 ans qui a donc perdu son père, elle rejoint sa famille à Anvers. Et là, à Anvers, bon, il y avait ce qu'on appelait des marieuses, et on lui trouve un mari qui a déjà deux enfants, et elle fait un mariage arrangé, donc ma grand-mère avec ce monsieur qui a deux enfants. Et puis, cette grand-mère Nadia, la guerre arrive et elle tombe malade. Et elle meurt au moment où elle a 40 ans, ma mère a 20 ans. Donc, ma mère a été élevée en Anvers. Ma mère parlait flamand, par exemple. Elle parlait yiddish et flamand et français. Et ma mère perd sa mère, donc elle devient orpheline. Elle n'a plus de père, elle n'a plus de mère. Elle a ce beau-père qui a deux enfants. Ils sont obligés de quitter Anvers parce que les Allemands arrivent et que c'est trop dangereux pour eux. Donc, ils passent en France. Elle part, elle quitte, elle m'a raconté ça, c'est une histoire très tragique. Elle quitte Anvers au moment où on enterre sa mère. Elle n'a pas pu aller à l'enterrement, qui vient de mourir à l'hôpital. Elle a été malade, je pense qu'elle a eu un cancer. Et donc, elle a 20 ans, elle est seule au monde avec ce beau-père et ses deux enfants. Et elle se retrouve en France, ils passent la ligne de démarcation, ils sont dénoncés, ils sont arrêtés et ils sont envoyés à Rivesaltes. On arrive à Rivesaltes, voilà.
Mais vous voyez, vous avez encore des histoires à raconter, ouais. Parce que cette histoire de vos grands-parents, ouais. Très romanesque aussi, avec ce mariage arrangé, et encore avant, c'est une histoire que vous pourriez raconter dans un film. Alors, effectivement, arrivons à vous, parce que vous n'êtes pas né ni à Anvers, ni à Rivesaltes, mais à Lyon. À Lyon, 3 ans et demi, 4 ans après votre sœur,
c'est née. Ça.
Vous êtes né le 3 décembre 1948 à Lyon, et vous avez grandi à Lyon.
Bah, jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire, mes parents se sont retrouvés à Lyon probablement par hasard. Ils ont passé le temps de la guerre depuis 42 jusqu'à la fin de la guerre 45 à aller d'une ville à l'autre. Ils se sont retrouvés finalement à Saint-Martin-Vésubie, là où tous les Juifs se retrouvaient parce que c'était une zone italienne. Et puis quand les Italiens s'en vont de Nice, de toute cette région, bah, ils sont obligés de s'échapper encore une fois. On est en 43. Donc, la guerre n'est pas finie. Et là, c'est là qu'ils traversent à pied les Alpes. Et ils se retrouvent en Italie. Ils ont passé le reste de la guerre à Gênes, cachés dans un grenier. Et puis ensuite, ils sont arrivés en Suisse et là, on les a libérés. Donc, ils se retrouvent avec rien. Ma mère est enceinte de ma sœur et puis ils se retrouvent à Lyon. Et là, mon père, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour vivre, pour même trouver de quoi se loger. Mais tout ça, ça faisait partie du récit héroïque. Tes parents sont des héros. Et puis moi, je nais donc en 48. Ma sœur a donc 3 ans et demi, 4 ans. Et mon père a ouvert un petit magasin de confection pour hommes. Et ma mère est femme au foyer, elle est à la maison, elle s'occupe de nous. Voilà.
Vous disiez, Diane Curis, que c'était malgré tout un mariage blanc. Peut-être que l'amour a eu un temps. Ça, eux seuls le savaient d'une certaine façon. Toujours est-il qu'en 1954, vos parents se séparent. Vous restez avec votre mère. Vous montez à Paris avec votre sœur. Vos parents, dites-vous dans vos films, ne se sont jamais revus.
Non, ouais, ça c'est très frappant. Ouais, ouais, c'est terrible. Alors, je pense que pour un enfant, c'est un traumatisme affreux parce que on est le fruit de cette union-là, mariage blanc ou pas. Il y a eu 10 ans d'amour. Enfin, ils sont restés ensemble. Et puis pour moi, c'était mes parents. Donc, quand elle part, elle part. Elle prend son indépendance. Elle part sous l'influence d'une femme qui s'appelle Madeleine, qu'elle rencontre par hasard dans un jardin en promenant les enfants. Elle, Madeleine a un fils. Ma mère est enceinte de moi et elle a ma sœur. Et elles deviennent amies, toutes les deux. Elles se trouvent des amis communs, elles se revoient. Et c'est une espèce d'amitié amoureuse qui naît de vraiment, elles cèdent l'une l'autre finalement à prendre leur indépendance.
C'est coup de foudre.
C'est coup de foudre.
C'est l'histoire de
voilà. Et Madeleine est une figure dans ma vie aussi très importante. Et sous l'influence de Madeleine, ma mère, donc Léna, elle s'appelait vraiment Léna, décide un jour de quitter mon père. Et d'ailleurs, elle le quitte de façon très violente pour un enfant. C'est-à-dire, on vient me chercher dans une colonie de vacances et on me dit, on va partir à la Baule chez les cousins. On a des cousins. La demi-sœur de ma mère a des enfants, 4 enfants. Et je comprends à ce moment-là que je ne reviendrai plus jamais à Lyon. C'est fini. C'est comme si une vie se terminait. Et c'est pendant les vacances à la Baule,
d'où la Baule les pins.
D'où la Baule les pins. Que ma sœur m'explique, ma cousine, on m'explique que j'ai 6 ans, 5 ans et demi, et on me dit bah non, voilà, c'est fini, Lyon, tu n'y retourneras pas, et on va partir à Paris. Voilà. Et je deviens cette petite Parisienne adoptive de 6 ans. On m'inscrit à l'école. Ma mère trouve un appartement. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. Au début, elle faisait, je pense qu'elle vendait des buvards. Vous savez, à l'époque, il y avait des buvards publicitaires. Elle était représentante de commerce. Enfin, elle avait trouvé n'importe quel boulot pour pouvoir nous nourrir. Et à partir de là, mon père n'a jamais plus voulu la revoir. C'est pas elle, hein. C'est lui qui n'a plus jamais voulu lui parler, la revoir. Et ils ne se sont jamais revus. Jusqu'à sa mort à elle.
Dans La Baule les pins, où votre mère est incarnée par Nathalie Baye et votre père par Richard Berry, vous filmez donc l'été de la séparation, ses parents qui se séparent, et vous montrez quand même un père violent. C'est-à-dire que le père manque, on peut le dire comme ça, parce que c'est très net dans le film, manque de tuer la mère devant les yeux de la grande sœur.
Oui, ça c'est le cinéma. Hein.
Ok.
On se permet tout au cinéma.
Vous parliez de violence, donc je me permets.
On se permet tout au cinéma, on se permet, parce que les scènes, on les a jamais vécues vraiment. Cette scène-là, par exemple, que j'ai écrite et que j'ai filmée dans La Baule les pins, avec cette petite actrice qui s'appelait Julie Bataille et qui était absolument merveilleuse et qui avait 13 ans à l'époque. La scène, elle m'a arraché les larmes au moment où on l'a tournée d'ailleurs, parce qu'elle était tellement... Bon, je pense que Julie Bataille, elle vivait une séparation. Ses parents se séparaient cette année-là, je crois, ou s'étaient séparés l'année d'avant. Donc, elle connaissait bien le sentiment. Mais c'est des choses qu'on invente. Hein, je pense pas que mon père a été si violent avec ma mère, je crois pas. J'ai jamais, en tout cas, assisté à ça. Mais c'est du cinéma. Il faut bien qu'on fasse peur aux gens, qu'on montre des sentiments exacerbés. Donc, ça, c'est le cinéma. Et c'est drôle, d'ailleurs, le cinéma, ça permet de faire jouer ses parents par plein d'acteurs différents.
Oui, c'est le cas.
Il y a plein d'actrices qui ont joué ma mère. Isabelle Huppert,
Nathalie Baye,
Geneviève Fontanelle, Claudia Cardinal.
Ça, on y reviendra dans votre rapport aux actrices, bien entendu. Ouais. Juste un mot par rapport à votre judéité, en tous les cas, par rapport à ce que vos parents vous ont raconté dans les récits qu'ils faisaient. Est-ce qu'il y avait un récit aussi de peur ou au contraire d'identité? On voit cette judéité représentée dans plusieurs de vos films, Diane Curis, dans Coup de foudre évidemment, puisque les parents sont obligés de fuir la France pour gagner l'Italie, on le voit cette scène, dans Pour une femme, le personnage de Jean, l'oncle qui arrive, est un chasseur de nazis, on y reviendra également, dans Les enfants du siècle même, vous montrez la détresse des juifs de Venise, au XIXe siècle, ce film qui retrace l'amour passionnel entre Alfred de Musset et George Sand. Donc, l'identité juive, elle est présente dans votre filmographie. Est-ce que vous l'avez vécue très fortement, vous ?
Non. Enfin, les premières années, je suis élevée par mon père et ma mère. Mon père est très athée, ma mère aussi. Mon père est communiste, donc il peut pas supporter l'idée de religion. Et je suis très, 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 très loin de l'identité, de l'appartenance. Je sais même pas ce que c'est qu'une fête juive, à part la nourriture. Alors, mon lien à la judaïté, elle passe par la nourriture que faisait ma mère. Et ma mère faisait la cuisine juive parce que sa mère la faisait. C'est la tradition. En revanche, j'ai jamais mis les pieds dans une synagogue jusqu'à l'âge de 10 ans quand mon oncle se marie. Je ne sais rien de tout ça. Et c'est pas un sentiment très fort. C'est pas, il n'y a pas d'appartenance. Je suis restée athée. Et d'ailleurs, à l'école, plus tard, j'avais même un peu honte de dire je suis juive. Et quand on me disait qu'est-ce que tu es, je disais je suis athée. J'avais peur. Alors, la peur, elle s'est transmise, évidemment. Cette peur de la guerre. Je suis née quand même 3 ans après. C'est bien plus tard. En fait, c'est dans les années 89, il y a eu un premier mouvement d'antisémitisme en France. Quand je dis premier, on assiste au deuxième, on va dire. Et c'était très violent. Et je me souviens que mon père était encore en vie, je lui en avais parlé. Il m'avait dit, mais c'est rien. Pff, on a vécu pire. Enfin, lui, il minimisait ça. Et moi, je me disais, mais c'est la première fois que je... Et à ce moment-là, quand je voyais dans les journaux, il y avait des croix gammées sur les... Et c'est arrivé. C'était au moment de la première intifada, je crois. Toujours lié à Israël, évidemment. À ce moment-là, j'ai pris conscience. Mais c'est tard, hein. J'étais déjà adulte, j'avais déjà ma vie d'adulte. J'ai pris conscience du fait que j'étais née 3 ans après la guerre. Donc 3 ans avant, je serais partie, brûlée dans les camps, peut-être. Donc tout à coup, il y a eu comme ça un sentiment d'appartenance, mais à plutôt un peuple victime qu'une religion ou une croyance ou l'appartenance à une communauté.
Oui, l'appartenance à une minorité persécutée.
C'est ça, plutôt oui, ça, parce que je pense que, oui, puisque ces histoires d'enfance qu'on me racontait, c'était des histoires de « on s'est sauvé », fallait bien se sauver de quelque chose. Donc, je crois que je suis née là-dessus. Enfin, j'ai été élevée avec cette idée-là. Ouais.
Et vous dites que votre père était communiste, vous l'avez même dit 2 fois, me semble-t-il, et on le voit aussi dans vos films. Les valeurs qui vous ont été transmises ont été celles du communisme ?
J'ai pas été élevée par lui. À 5 ans, je suis partie, 6 ans, je suis partie. Donc
oui, parce qu'on disait que vos parents ne se sont pas revus, vous avez quand même vu assez peu votre père.
Je le voyais, on allait en vacances à Lyon, on passait des vacances avec lui, on passait un mois d'été, les petites vacances, donc je le revoyais. Il venait très peu à Paris, donc je le voyais peu. On peut pas considérer que j'ai été élevée par lui, mais il était une influence parce que c'était quelqu'un qui parlait, c'était quelqu'un qui avait vraiment des opinions très fortes, comme on les avait à l'époque dans ces milieux-là, et ça m'influençait. Mais je trouvais qu'il radotait un peu, et puis plus le temps a passé, plus j'ai trouvé qu'il était. Mon père est resté communiste après la chute du mur, quand même, donc longtemps.
Jusqu'à sa mort.
Ah, jusqu'à sa mort. Oui. Oui.
C'est vrai d'ailleurs que. Dans Pour une femme, on assiste à la mort de votre père, enfin, donc du père. Mais c'est vrai aussi que vous lui avez annoncé la fausse mort de Boris Yeltsin ou de Gorbatchev sur son lit de mort pour lui faire plaisir avec
oui,
votre sœur.
Oui, alors on lui a annoncé autre chose, parce que pour que le public comprenne, c'est ça qu'on lui a annoncé, la mort de Yeltsin. Mais en fait, on lui a annoncé que Balladur était mis en examen, ce qui n'était pas vrai. Et ça lui a suffi, il est parti heureux.
Et que votre sœur a mis les cœurs de l'armée rouge à l'enterrement.
Ça, je l'ai inventé, mais elle aurait pu.
Bon, l'idée n'est pas de démêler le vrai du faux, hein, dans
oui,
vos films, mais j'ai des questions
c'était
qui
tout à fait,
comme ça. Mais...
C'était tout à... j'avais envie qu'on sourie au moment le plus triste du film, c'est-à-dire quand c'est Benoît Magimel qui joue le rôle, et quand il disparaît, j'avais envie qu'il y ait à la fois l'ironie et la douleur, et donc c'est mélangé. Et moi, j'adore ce moment là où on entend tout à coup les cœurs de l'armée rouge. Ces gens-là, ces communistes-là, ils étaient purs et durs jusqu'au bout, et même s'ils voyaient bien que c'était pas tout à fait ça qu'ils avaient rêvé. Mon père, il passait toutes ses vacances, il partait en voiture et il allait à la mer Noire. Il passait ses vacances là-bas.
Bon, il y a une figure, un personnage, mais qui a réellement existé et que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est le personnage de votre oncle, le frère de votre père. On le voit dans Pour une femme, puisque ce frère débarque à Lyon avec une histoire qu'il raconte, parce qu'on sent bien qu'il y a un grand mystère derrière. Il se révèle traqueur, chasseur de nazis. Il y a une question qui a trait à votre propre naissance par rapport à ce...
Oui,
cet oncle.
Oui, c'est comme ces idées qui vous viennent tout à coup. Vous savez pas pourquoi. Ma mère m'avait offert un jour une bague d'homme, une chevalière, qui avait sans doute appartenu à cet oncle Jean. Il s'appelait Jean Curis, voilà. Et j'ai tout à coup, je sais pas pourquoi, comment, imaginé, fait 1 plus 1. À quelle date je suis née ? Bien sûr, à cette date-là, il était déjà arrivé en France. Cet oncle avait habité un an chez mes parents avant ma naissance. Bon, après, on peut tout imaginer.
Et votre mère ne vous en a jamais parlé ?
Si, mais tout le monde m'en a parlé. Mais si vous voulez, il s'était fâché en partant de la maison, avant ma naissance, il s'était fâché à mort avec son frère, avec mon père. Et pourquoi deux frères se fâchent à mort ? Et je pense que c'était pas une histoire d'affaires d'argent, c'était vraiment une histoire
de politique,
privée.
Peut-être à l'époque.
On peut tout imaginer. Moi, je me suis imaginé qu'il s'était fâché parce qu'il avait été l'amant de ma mère. Bon, voilà, c'est tout à fait possible. Un an ne travaillant pas, il dormait sur le canapé du salon. Ma mère était à la maison toute la journée. Elle avait une petite fille, ma sœur, et mon père allait travailler toute la journée. Bon, et j'ai imaginé ça. Et puis tout à coup, j'ai regardé les dates. J'ai dit mais alors, je suis née à cette époque-là. Et donc j'ai imaginé que, j'étais la fille de cet oncle et que c'est pour ça que j'étais toujours dans mon enfance, que je me sentais mal aimée, pas comprise, en douleur, j'avais toujours des migraines, j'étais maigre comme un clou. Enfin, je n'étais pas une petite fille bien épanouie. Et j'ai mis ça sur le compte plus tard, de cette naissance qui aurait peut-être été. Et puis je me suis dit, peut-être qu'ils n'ont jamais su, aucun des trois n'a su. Et quand j'ai pensé ça, ils étaient morts tous les trois. Personne n'allait pouvoir me dire, oui, c'est la vérité, voilà, tu es la fille de Jean, tu n'es pas la fille de Michel. En plus, ils se ressemblaient. Donc, je ressemblais aussi à mon père. Voilà. Donc, et sur ce mystère-là, sur ce doute-là, j'ai construit un film. Je me suis dit, et si j'étais pas la fille de mon père, peut-être il s'est passé ça. Et puis, ça m'a permis d'écrire ce film qui s'appelle Pour une femme.
Donc, Pour une femme, justement, la sœur dit à la petite, c'est pas ta vie, c'est celle que tu inventes.
Peut-être. Et je saurais jamais, d'ailleurs. Mais au fond, j'ai pas envie de savoir, vraiment. J'ai fait le film, ça me suffit.
Est-ce que faire un film, ou même plusieurs films, Diane Curis, sur sa famille, sur ses parents, sur son enfance, c'est aussi non seulement chercher à se comprendre, mais peut-être chercher à pardonner quelque chose qu'on porte en soi et qui est un peu lourd ?
Oui, on se met à nu, on met d'autres gens à nu aussi, sans complexe. On se débarrasse de quelque chose et en même temps, on fait peut-être œuvre utile aussi. Ce qui est curieux, c'est que les gens de ma famille, ma sœur par exemple, elle croit à ce que j'écris. C'est-à-dire, elle prend pour argent comptant mes films. Elle pense que ce que j'ai raconté, c'est la vérité. Puis la fiction finit par devenir la vérité, quoi. Et après tout, on ne fait pas des films juste pour notre petit nombril. On fait aussi des films pour les partager avec d'autres gens, pour que d'autres puissent reconnaître quelque chose des sentiments qu'ils ont vécus, qui les ont traversés. Alors, par exemple, dans Diabolement, à la fin, je dédicace le film à ma sœur et je me rappelle, j'étais au mixage quand il a fallu trouver cette phrase. J'avais pas eu l'idée de la phrase. Donc, j'ai trouvé très vite une phrase et j'ai écrit à ma sœur qui ne m'a toujours pas rendu mon pull-over orange. Et c'est une phrase qui m'est venue comme ça. Je me suis dit, ça va être drôle parce que ça va être comme un grief absurde, ridicule. On lui en veut pour ce pull-over orange. Eh bien, elle a cru. Il y avait un pull-over orange, vraiment. Et elle m'a demandé pardon. Il n'y avait pas eu de pull-over orange, voilà. Mais c'est ça qui est rigolo et qui est aussi qui est amusant. Alors, moi, je pense qu'on a le droit d'écrire sur sa famille, on a le droit d'écrire sur tout ce qu'on veut, tant qu'on ne fait pas, qu'on fait pas souffrir horriblement, inutilement les gens avec des choses qu'on leur révèle. Voilà. Et je ne l'ai jamais fait. J'ai quand même toujours respecté un peu la pudeur, des sentiments. Voilà. Moi, j'ai l'impression de dire la vérité à chaque fois. Voilà.
Merci Diane Curis. On était du côté des parents dans ce premier épisode. On sera du côté de l'enfance et des enfants dans l'épisode suivant. À suivre l'épisode 2 du côté de l'enfance. C'était À Voix Nue avec Diane Curis. Réalisation Anne Pérez Franchini. Prise de son Jérôme Casamayou. Chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.